France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité.
Les informations, Margot Delpierre.
Bonjour à tous. Le coronavirus a tué près de 1900 personnes en Chine. Le bilan s'alourdit de jour en jour. Les conséquences sont aussi économiques. Parmi les nombreuses entreprises perturbées, on peut désormais ajouter Apple. Le géant américain des technologies n'atteindra pas ses objectifs de vente ce trimestre. Les iPhones sont fabriqués en Chine. Apple a des sous-traitants dans la région de Wuhan, l'épicentre de l'épidémie. On se dirige vers la création d'un numéro 2 mondial du ferroviaire. Le constructeur français Alstom a annoncé hier son projet de rachat de la branche ferroviaire du Canadien Bombardier. Et cela pour un montant compris entre 5,8 et 6,2 milliards d'euros. Ce rachat ne menace pas du tout l'emploi, assure le patron d'Alstom. Le groupe, dit-il, a besoin de tous les talents. Nous y reviendrons dans le journal de 6h30. Son déplacement est très attendu. Emmanuel Macron sera à Mulhouse tout à l'heure, où il annoncera de premières mesures pour lutter contre ce qu'il appelle le séparatisme, autre nom qu'il donne au communautarisme, un dossier politiquement sensible à l'approche des élections municipales. Il risque d'être mis en examen. Le russe Piotr Pavlensky et sa compagne Alexandra de Tadeo seront présentés à un juge d'instruction aujourd'hui. Ils étaient en garde à vue jusqu'à hier après-midi dans l'affaire des vidéos intimes qui a poussé Benjamin Griveaux à renoncer à briguer la mairie de Paris, entendu pour atteinte à l'intimité de la vie privée et diffusion sans l'accord de la personne d'images à caractère sexuel. Et puis selon une étude, les feux de forêt en Australie ont touché les trois quarts des Australiens, soit 18 millions d'habitants. Selon l'Université nationale du pays, ils ont fait plus de 30 morts et détruit des milliers d'habitations. D'après les scientifiques, le réchauffement climatique a aggravé la crise saisonnière des incendies.
Un peu, beaucoup, passionnément, et puis moins parfois. L'amour, toujours l'amour. Sonia Kronlund.
Un psychiatre et une psychologue reçoivent des couples en crise. Entrez dans leur intimité et suivez leur histoire. Trois couples, cinq épisodes, pas mal de ressentiments, mais beaucoup d'espoir. C'est la Clinique de l'amour, le nouveau podcast des Pieds sur Terre, raconté par Delphine Saltel.
La Clinique de l'amour, nouvelle série en podcast original des Pieds sur Terre sur franceculture.fr, l'appli Radio France et toutes les plateformes dédiées.
Vendredi 6 mars à 20h, à l'Auditorium de Radio France, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par le jeune prodige Klaus Makela, nous entraînera vers le Grand Nord, avec le concerto pour violoncelle de Salonen, interprété par Truls Mörck, et la première symphonie de Sibelius, merveille d'éloquence et de lyrisme. Avec une pointe d'esprit français, avec gigue et ronde de printemps de Debussy. Entrez au cœur du concert. Réservation maisondelaradio.fr.
6h03, tout de suite sur France Culture, Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel, le magazine diffusé tôt à la radio tous les jours de la semaine et que vous pouvez écouter quand vous voulez en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast disponible sur l'application de Radio France par exemple ou encore en quelques clics à partir de franceculture.fr. Corinne Amar à la coordination, Vincent Bouchard à la réalisation avec ce matin à la prise de son Florent Bujon. Tous les mardis c'est l'actualité des expos et aujourd'hui on va parler de l'exposition Le rêveur de la forêt au musée Zadkine. C'est d'ailleurs inspiré par l'œuvre du sculpteur Ossip Zadkine, cette exposition qui interroge les fascinations qu'a exercées la forêt sur l'art depuis le début de la révolution industrielle jusqu'à l'époque contemporaine marquée par la prise de conscience des bouleversements écologiques causés par l'homme. La forêt donc, la forêt comme refuge du vivant, du sauvage, du sacré, mais aussi le bois comme matière première. Une centaine d'œuvres, une quarantaine d'artistes donc sont exposés dans ce joli petit musée Zadkine, dans ce qui fut autrefois la demeure et l'atelier de ce sculpteur d'origine russe. On en parle ce matin avec les deux commissaires de l'exposition, Noël Chabert, qui est aussi par ailleurs la directrice de ce musée, et Jeanne Brun, le rêveur de la forêt, c'est jusqu'au 23 février 2020 au musée Zadkine.
Le réveil culturel. Mardi, expo.
Sculpture, peinture, poésie, philo, science, l'exposition Le rêveur de la forêt au musée Zetkin croise les époques, les médiums et les genres. D'Auguste Rodin à Eva Jospin et de Guillaume Apollinaire à Hicham Berada, de Giacometti à Giuseppe Pennonet, une centaine d'œuvres d'une quarantaine d'artistes. Bonjour Noël Chabert, bonjour Jeanne Brun. On va parler donc de cette exposition, mais tout d'abord peut-être présenter aussi Zetkin, puisque tout part de son œuvre et aussi de sa philosophie. Noël Chabert, vous qui êtes directrice du musée Zetkin, qui était donc Ossip Zetkin?
Eh bien, Ossip Zetkin est un sculpteur d'origine russe. Il est né en Biélorussie en 1888 et il est mort dans cette maison atelier de la rue d'Assas en 1967.
Et qui devient donc le musée Zetkin.
Qui est devenu par la suite, sa femme était peintre, donc elle aussi artiste, et elle a tout donné à la ville de Paris afin de créer ce musée Zetkin en hommage à son mari.
Et la relation qu'avait Zetkin avec la nature et plus particulièrement la forêt?
Donc il est né en Biélorussie et il avait la chance d'avoir par sa famille maternelle un oncle qui possédait une très grande forêt. Et cette forêt surtout se trouve à proximité de la dernière grande forêt primaire d'Europe après le dernier épisode de glaciation. Donc Zetkin a passé une partie de son enfance et notamment toutes ses vacances en liberté dans cette forêt. Et ça l'a totalement imprégné, ça a imprégné sa sensibilité. Et son œuvre est habitée vraiment par ses expériences et ses réminiscences aussi de son enfance.
Comment ?
Il disait « Le sculpteur est un ordonnateur, il anime les formes et leur conserve le parfum enivrant de la forêt, le parfum enivrant de la forêt ». Donc pendant toute une période, la première partie de sa vie, ça passe par des torses en bois, toutes les essences de bois, qui est extrêmement sensible à
donc
la
il
matière.
Il travaille le bois, oui.
Il travaille le bois et il est connu justement pour ses torses et aussi pour d'immenses statues colonnes, qui sont d'ailleurs dans une des parties de l'exposition. Il y a aussi un moment dans sa vie où les choses basculent après la Seconde Guerre et son exil aux États-Unis. Zetkin est juif, donc il a dû fuir aux États-Unis. Et là, curieusement, c'est la forêt vraiment qui prend la première place, comme si aussi c'était le ressort vraiment profond de son œuvre.
Et aussi le lieu de tous les refuges possibles. Jeanne Brun, s'il fallait parler donc de cette exposition donc autour de l'œuvre de Ossip Zetkin, autour de sa philosophie, mais pas seulement, parce que vous avez convoqué presque toutes les époques, en tout cas beaucoup d'artistes qui eux-mêmes ont été inspirés par la forêt, d'ailleurs d'où l'intitulé de cette exposition, Le rêveur de la forêt.
Effectivement, on parle de la figure de Zetkin, mais pour s'intéresser en fait à un temps et à un champ d'artistes plus large, de la révolution industrielle, comme vous l'avez dit, jusqu'à nos jours. Alors pourquoi à partir de la révolution industrielle et de la modernité? Parce que à ce moment-là, tout simplement dans la société, très généralement, c'est le moment où il y a un éloignement d'avec la forêt.
Pour ne pas dire rupture, ouais.
Voilà, absolument. Mm-hmm. Que les artistes ressentent, qui vivent en ville pour la plupart. Et on s'est interrogé sur l'idée que peut-être certains artistes ont le pressentiment qu'il ne faut pas perdre totalement le lien avec la forêt, avec le monde sauvage, et que certains artistes cherchent dès cette époque, en fait, à maintenir une alliance vivante vraiment avec le monde sauvage, avec le motif de la forêt, avec les matières aussi, comme le bois, évidemment, comme chez Zetkin. Et c'est la raison pour laquelle on a élargi ce propos, d'abord avec les grands modernes. On a dans l'expo, par exemple, Picasso et son œuvre précoce, mais aussi des artistes beaucoup plus contemporains qui continuent de s'intéresser finalement à ce lien persistant, cette fascination persistante pour le monde sauvage et la forêt.
Plus que jamais pour les artistes contemporains, parce que eux, ils sont conscients des bouleversements écologiques.
Plus que jamais, je ne sais pas, parce que précisément notre propos était de montrer que finalement il y avait peut-être eu un pressentiment de la situation qu'on connaît aujourd'hui de façon très urgente et dramatique.
Donc plutôt si pressentiment.
C'est-à-dire qu'on n'était pas encore dans la crise qu'on connaît aujourd'hui, que certains continuent de nier par ailleurs, mais il y a déjà quand même cette idée de garder un lien avec la nature sauvage. c'est pas si évident que ça à l'époque de la modernité, qui se définit aussi par rapport à la machine, par rapport à une fascination pour les formes urbaines. Il y a déjà une forme de courage ou de singularité. Zadkine est vraiment un sculpteur de la modernité, mais une modernité très singulière pour cette raison, à défendre ce lien avec la matière vivante, avec la forêt, avec le monde sauvage.
Comment vous avez fait pour choisir les artistes qui sont exposés, puisqu'il y a effectivement tous les genres?
Il y a tous les genres, si on entend par là, effectivement, de la vidéo, du dessin.
Oui, en fait, les médiums, oui, le dessin, de la poésie. Ouais.
Il y a tous les médiums.
La peinture, oui, bien sûr.
Voilà. Ensuite, on est effectivement dans une période chronologique hein, qui va, disons, de la fin du symbolisme et surtout les débuts de la modernité jusqu'à aujourd'hui. Mais après, il y a des fils rouges aussi dans l'exposition. Oui, je pense que c'est une des composantes. Alors, un des fils rouges, par exemple, c'est tous les primitivismes, que ce soit primitivisme extra-occidentaux hein, ou bien aussi l'art naïf, l'art des enfants, l'art brut. Il y a toute cette dimension, notamment par exemple la figure de Dubuffet qui est si importante pour l'art brut est représentée avec une œuvre particulièrement forte.
Qui est ?
La chaussée boiseuse.
Voilà.
Oui.
Donc on dit toujours que dans une forêt, le sol, si on regarde le sol, c'est très très important parce que c'est de là que tout revit. Donc voilà, ce titre de Dubuffet. Un autre fil rouge, c'est le surréalisme, avec des très très belles œuvres, que ce soit de Brauner, que ce soit d'André Masson. Voilà, Max Ernst, évidemment. Et puis, oui, j'ai dit un mot de l'art brut. Il y a aussi, alors chez les contemporains, on a aussi tenu à ce qu'il y ait des œuvres, comme on dit, sonores. Et là, il y a deux très belles œuvres d'un compositeur qui s'appelle Jean-Luc Hervé et également d'une artiste qui s'appelle Ariane Michel. Et l'expo se clôt d'ailleurs, se conclut sur la forêt des gestes, qui est une très belle installation sonore de cet artiste.
Comment vous avez conçu cette exposition, Jeanne Brun, en compagnie de Noël Chabert? Qu'est-ce qu'elle raconte?
Alors, on l'a conçue en plusieurs temps. On avait vraiment envie, en fait, d'emmener le visiteur au long d'un parcours et donc de le faire pénétrer dans l'espace de la forêt. C'est la raison pour laquelle on commence par une partie qui s'appelle lisière, avec cette idée que le passage lui-même, c'est-à-dire le fait de quitter, de laisser derrière le monde civilisé et d'entrer dans la forêt ou vice-versa est important. Ensuite, on entre vraiment dans le cœur de la forêt, le cœur du monde sauvage, avec une partie qu'on a intitulée Genèse, parce que une partie des artistes est fascinée, comme c'est bien logique, par la force de création de la forêt, non seulement effectivement son aspect infini, mais sa liberté totale aussi. Donc on avait envie d'explorer ces aspects-là, notamment avec des modernes, encore une fois, comme Jean Harpe, et ses œuvres qu'il appelle concrètes, parce qu'il dit qu'il n'y a rien de plus concret que d'imiter non pas les formes de la nature, mais la force de création, la croissance même de la nature. Et puis on achève le parcours en entrant vraiment dans plutôt des formes de narration autour de la forêt, donc l'univers des contes, l'exploration de la polarité autour de la forêt, c'est-à-dire un aspect de fascination pour nous tous, de familiarité finalement de cet univers dans les contes notamment de nos enfances, et en même temps la grande crainte qu'inspire la forêt.
Puisque donc la peur, oui, aussi.
La
aussi.
Peur, tout à fait, parce que la forêt n'est pas un endroit qu'on a domestiqué, donc on n'est pas un endroit où on est à notre aise, qui est fait à notre mesure, mais un endroit au contraire où on doit s'adapter aux autres vivants.
Et les rêveries, bien sûr, hein, pour reprendre l'intitulé de cette exposition, Le rêveur de la forêt au musée Zadkine, rêverie et poésie.
Et poésie, tout à fait. Alors, d'abord, dans la façon qu'on a eu de composer l'exposition, enfin, je rebondis un peu sur cette question de la poésie, c'est-à-dire effectivement par des liens de combinaisons qui ne sont pas toujours absolument linéaires. Noël parlait de fil rouge, mais c'est des questions de correspondance aussi entre des artistes qui parfois ne se sont pas connus, évidemment, si on parle d'Ariane Michel, par exemple, et de Dubuffet, et qui pour autant, dans cette exposition, résonnent. Et vous évoquez la poésie, mais c'est tout à fait juste par rapport à la forêt, parce que on a cherché à montrer dans ce parcours que ce que les artistes cherchent à fuir aussi quand ils s'intéressent à la forêt, c'est une certaine pensée rationaliste du monde, une certaine pensée rationaliste qui a permis de dominer le monde et de laquelle il faut peut-être se distancier pour mieux justement y entrer à nouveau de plein pied et le comprendre.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Un coup de feu dans la nuit, une douleur glaciale qui s'élance, la forêt soudain qui frémit, puis s'installe le silence. Tu te tiens là assourdi, tu prononces la sentence. Le deuxième coup est parti et fais bientôt la différence. Dans la forêt, je te retrouve à l'heure opportune. Un rendez-vous improvisé sous la lune. Sourire crispé, situation compliquée. Je sens ton souffle qui me frôle le cou. Un pistolet chargé me caresse la joue. Tu me dis cette fois c'est moi qui joue.
Forêt avec l'Escope sur France Culture. L'Escope qui va sans doute vouloir voir cette exposition autour de l'œuvre d'Ossip Zadkine, de sa philosophie, Le rêveur de la forêt. C'est le titre donc de cette exposition avec une quarantaine d'artistes, une centaine d'œuvres au musée Zadkine jusqu'au 23 février 2020. Et nous sommes ce matin dans le réveil culturel avec la directrice du musée et la co-commissaire de cette exposition, Noël Chabert, ainsi qu'avec Jeanne Brun. Alors, on va déambuler avec vous, si vous voulez bien, dans cette exposition. Qu'est-ce qu'on peut voir? Comment vous avez imaginé la dramaturgie, je dirais, de cette scénographie?
Alors, comme je vous le disais, on entre par la lisière, nécessairement, et effectivement, dès la première salle, qui est un ancien atelier de Zadkine, donc avec une grande hauteur sous plafond, une très belle lumière, on entre dans la forêt, ou plutôt à la surface de passage à la forêt, avec une chouette qui nous regarde. C'est une vidéo, une projection d'Ariane Michel, encore elle, qui s'appelle Les yeux ronds, et qui a été présenté aussi en extérieur en 2006, je crois, sur le fronton de l'Orangerie. Parce que cette chouette, en fait, de la vidéo, regarde depuis un arbre de la Concorde passer les lumières de la ville et les voitures sur la place de la Concorde, tout simplement. Donc, c'est un premier renversement en entrant dans l'exposition parce que, encore une fois, en tant que qu'hommes et femmes, on a l'habitude de dominer la nature de notre regard, de notre connaissance. Et là, on opère déjà un petit renversement avec cette chouette, ce regard qui est posé sur nous, qui est circonspect, qu'en même temps on ne peut pas vraiment pénétrer, donc évidemment on ne peut pas savoir exactement ce que pense cette chouette, mais le retournement fait qu'on s'interroge sur justement cette frontière d'abord entre le monde sauvage et le monde civilisé. Le sauvage en fait est au cœur de la ville, au cœur de nous, et en même temps sur la définition même du sauvage et du civilisé, puisque évidemment dans le contexte actuel, on se demande qui de l'homme ou du monde sauvage et de la nature est finalement le plus évolué, ou en tout cas se promet au plus bel avenir. Voilà. Donc ça, c'est l'entrée dans l'exposition, et cette œuvre-là représente bien cette lisière et ce passage qu'on a souhaité pour le visiteur dans une bulle autour de la forêt.
On est en train de déambuler aussi avec vous, Noël Chabert.
Donc, après cette première introduction dans la forêt, notre seconde partie, donc Genèse, et là, c'est un récit sur la démultiplication, en fait, du vivant, grâce à toutes les forces de la nature, et puis la
forêt. On est dans le sacré aussi.
Alors ça, c'est à la fin de l'exposition, ouais. Dans l'atelier d'ailleurs construit par Zadkine, la dernière partie de l'exposition, effectivement, sont les mystères de la forêt. Le titre même, Le rêveur de la forêt, hein, c'est un titre autobiographique qui vient de Zadkine. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, dans notre réflexion, comme vous disiez, il y a aussi une dimension, on a beaucoup regardé du côté des anthropologues également. Et un des anthropologues qui a fait un travail remarquable ces dernières années sur la forêt, ils sont plusieurs, mais enfin, en tout cas, il s'appelle Eduardo Cohn. Il a fait un livre qui s'appelle « Comment pensent les forêts ?». Et c'est un livre passionnant, et pour essayer de nous faire justement comprendre comment pensent les forêts, il se réfère aux rêves, à la manière dont nous rêvons en images, nous ne sommes pas dans quelque chose de logique, et parfois dans nos rêves, des détails sont beaucoup plus importants pour donner le sens du rêve que la narration. Et dans cette dernière partie, il y a à la fois les mystères de la forêt autour des grandes figures mythologiques, des grandes divinités que les hommes venaient honorer dans les bois de tout temps sacrés. Il y a toujours eu des arbres mères, des bois sacrés. Mais aussi la forêt intérieure, Zadkine parlait de sa forêt intérieure, la forêt archaïque, la forêt psychique. Et justement, le sommeil, le rêve, on a comme ça mis en dialogue une œuvre de Rodin qui s'appelle « Le rêve », où la figure semble écouter des voix intérieures, et puis une œuvre d'un duo d'artistes contemporains qui s'appelle Christophe Berdaguet et Marie Péjus. Et là, c'est bien davantage des figures. Finalement, les artistes travaillent. On voit bien dans cette exposition, à la fois, il y a ce rapport à une certaine primitivisme, à des matières comme le bois, comme la pierre, etc. Mais les artistes, aujourd'hui, travaillent beaucoup avec le numérique et avec tout ce qui est logiciel. Voilà. Et donc, ce sont des œuvres qui s'appellent... C'est une série qui s'appelle Arbre et qui... ce sont des impressions en 3D, puis traduite en résine, donc en sculpture, de dessins faits par de jeunes adultes sur le principe d'un test, vous savez, dans un hôpital d'ailleurs, et qui s'appelle « Dessine-moi un arbre ». À partir de là, certains profils psychologiques peuvent apparaître. Ça, c'est comme ça des œuvres qui dialoguent. On a entendu tout à l'heure une très belle chanson.
Ouais, l'escope, dans la forêt.
Voilà, il y a une gravure aussi qui appartenait à André Breton, et qui nous a été prêté, et c'est une œuvre où justement un couple part dans la forêt, on ne sait pas très bien qui est le prédateur, ou enfin voilà, ça s'appelle Vers la forêt, c'est une œuvre de Munch, l'auteur du Cri.
Et puis d'autres œuvres que vous avez eues, si on doit parler de la peinture avant de passer à la sculpture et au multimédia. Alors, Jeanne Brun.
Oui, on a un peu tout mêlé. Nous, on n'a pas... Évidemment, c'est un atelier de sculpteurs, donc il y a beaucoup de sculptures, les espaces s'y prêtent. Mais c'est vrai qu'on a souhaité représenter vraiment plutôt des réflexions engagées sur la question de la forêt, plutôt qu'un médium ou un autre. Mais sur la question des médiums, je vais peut-être revenir sur ce que Noël disait tout à l'heure, du son. Parce que pour nous, c'était très important aussi dans l'expérience du visiteur... que cette expérience ne soit pas uniquement visuelle. On a un certain nombre d'interdits dans les musées, évidemment, on ne peut pas faire rentrer des animaux vivants. tout le vivant qui compose la forêt, et on ne voulait pas, en revanche, faire un monde qui soit un monde silencieux, qui ne correspondrait donc en rien à la forêt véritable, telle qu'on peut en faire l'expérience quand on y est. Et c'est une des artistes qui nous expliquait que les gens qui font le récit de voyages dans des grandes forêts, en Amazonie par exemple, font d'abord le récit du son, de l'univers vraiment sonore qu'ils y rencontrent, parce qu'on est préparé finalement visuellement à travers des images qui sont diffusées de la forêt à la verdure, le vivant qui se cache, qui se révèle de temps en temps. Mais finalement, on n'a jamais cette expérience du son. Donc nous, on a souhaité, c'est pour ça que on a fait l'invitation à un compositeur, Jean-Luc Hervé, et à la vidéaste Ariane Michel. Et Jean-Luc Hervé a proposé un dispositif qu'il appelle un dispositif craintif, qui réagit en fait selon le passage des visiteurs, mais de façon qui n'est absolument pas linéaire ou binaire. Mais en fait, le dispositif en fait vit sa propre vie, alors par un système d'algorithmes extrêmement élaboré, mais vit sa propre vie et se manifeste à différents moments de la vie de l'exposition par des sons qui peuvent être des petits sons de grignotement, de passage presque d'insectes.
Mais des sons fabriqués ou enregistrés dans des forêts ?
Des sons plutôt fabriqués, ouais. mais combinatoires, c'est-à-dire qui...
Oui, je complète juste, non seulement combinatoire, mais aléatoire, dans la mesure où ce sont le propre mouvement du visiteur et ses déplacements, voire un timbre de voix plus ou moins élevé, qui déclenche ces sons. Et donc, si vous voulez, c'est jamais la même chose qui se reproduit. C'est aussi fonction de chacun. Et si je peux dire encore un dernier mot, parce que Jeanne insistait très justement sur la partie sonore et pas seulement visuelle, c'est quand même aussi cette façon de considérer le monde depuis un point de vue perspective, enfin la perspective, la renaissance et justement la vue, c'est aussi ça dominer l'univers. Alors que quand on est dans une forêt, eh bien, on est obligé de faire appel à tous ses sens. Et donc, c'est aussi une manière, justement, d'essayer de faire sentir aux visiteurs, voilà, qu'il a basculé dans un autre univers qui n'est plus, et pour un musée, c'est important, qui n'est plus seulement celui du regard et de la contemplation visuelle.
Nos craintes concernant tous les enjeux environnementaux, les bouleversements écologiques, il y avait aussi une envie de vous de partir à partir de l'œuvre du sculpteur Zadkine pour parler de cet enjeu crucial.
Je dirais qu'elle a été faite malgré tout et dans ce contexte, avec la conscience de ce contexte, avec un certain optimisme qui est sans doute aussi celui d'Ossip Zadkine. Et dans le catalogue, on a une participation d'un auteur qui s'appelle Baptiste Morisot, qui est philosophe, mais un philosophe engagé sur le terrain finalement, parce qu'il s'est mis à pister des animaux sauvages, notamment des loups, qui est venu parler d'ailleurs sur vos antennes de ses ouvrages, notamment La Piste Animale, et lui parle d'une diplomatie avec le vivant. Et c'est un peu ça qu'on a cherché à garder dans cette exposition, l'idée d'une alliance nouvelle entre les différentes composantes du vivant, plutôt qu'un ton extrêmement pessimiste.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Le rêveur de la forêt, l'exposition au musée Zadkine, c'est jusqu'au 23 février. Merci aux deux commissaires de cette exposition d'être venus ce matin nous en parler dans le réveil culturel. Merci Noël Chabert.
Merci à vous.
Et merci Jeanne Brun.
Merci beaucoup.
Bonne journée sur France Culture, on se retrouve demain.
France Culture, l'esprit d'ouverture. Sur France Culture, le monde sous toutes ses facettes, Florian Delorme.
Il y a tout juste un an, un immense mouvement populaire s'emparait de l'Algérie, que l'on disait pourtant totalement endormie, le Irak. Chaque vendredi, des milliers de manifestants sont descendus dans la rue pour dénoncer pacifiquement l'incurie de leurs responsables et demander la fin du régime. Depuis, l'indéboulonnable Bouteflika a démissionné, son chef d'état-major qui incarnait la continuité est mort et un nouveau chef d'état a été élu. Mais pour autant, l'Algérie a-t-elle vraiment changé ?
Culture Monde, du lundi au vendredi à 11h et sur franceculture.fr.
Les informations, Margot Delpierre.
Bonjour à tous. La confrontation a commencé à l'Assemblée. La réforme des retraites est examinée depuis hier dans l'hémicycle. Un baptême du feu pour le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran. Alstom promet que les emplois ne sont pas menacés. Le constructeur français va racheter la branche ferroviaire du Canadien Bombardier. Une grosse acquisition pour Alstom. La Syrie va rouvrir l'aéroport d'Alep aux vols commerciaux cette semaine. Une première depuis sa fermeture en 2012. Explication de notre correspondant dans la région. Les députés ont quitté l'hémicycle un peu après 11h hier soir sans avoir commencé à examiner les 41 000 amendements de la réforme des retraites. Une première journée plutôt chahutée. Le projet de loi examiné en séance plénière est très critiqué par l'opposition qui a un nouvel interlocuteur au ministère de la Santé, Olivier Véran, remplaçant d'Agnès Buzyn. Pierre Neveu, vous avez suivi ses premiers pas.
Il est des journées qui comptent dans la vie d'un élu. Celle-ci sera marquée d'une pierre blanche pour Olivier Véran. À 10h ce matin, Agnès Buzyn lui confiait les clés du ministère des Solidarités et de la Santé.
J'ai une confiance absolue dans la façon dont tu vas gérer ce ministère.
À 16h, il était à la tribune de l'Assemblée pour défendre le projet de loi sur la réforme des retraites.
Mesdames et messieurs les députés, le projet que nous vous présentons est un projet annoncé de longue date. Ce projet a la légitimité d'un programme présidentiel. Il a la légitimité d'une concertation. Il a la légitimité d'un rapport préparatoire conduit sous l'égide de Jean-Paul Delevoye. Et j'espère qu'il aura demain la légitimité large accordée par la confiance des parlementaires.
Et lorsqu'Olivier Véran tente de démontrer la complexité de l'actuel système de retraite et ses 42 régimes spéciaux, les rangs de l'opposition grondent. Le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, n'est pas de trop pour lui venir en aide.
Continuez, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, regardez droit devant et continuez.
Chahuté lui aussi, le secrétaire d'État aux retraites, Laurent Pietraszewski, défend une réforme synonyme de refondation sociale et ne manque pas au passage de critiquer les députés de l'opposition qui s'apprêtent à engager des manœuvres d'obstruction.
Le droit d'amendement, mesdames et messieurs les députés, est un droit constitutionnel que je respecte, bien entendu. Mais prenons garde que l'obstruction mécanique ne transforme certains députés en robots d'une organisation terroriste d'obstruction.
Ce sont donc deux ministres novices qui vont porter l'une des plus importantes réformes du quinquennat face à une opposition déterminée à débattre des amendements et multiplier les incidents de séance.
Un accord a été conclu hier entre Alstom et Bombardier Transport. Le premier rachètera le second. Une opération coûtant entre 5,8 et 6,2 milliards d'euros. Une grosse acquisition pour le groupe français. Ce projet d'achat soutenu par le ministre de l'économie Bruno Le Maire doit encore être entériné par les autorités de la concurrence européenne. Et ce n'est pas gagné, Raphaël Ebenstein.
Si Bruno Le Maire a aussitôt salué une excellente nouvelle pour la France et le Canada, c'est parce que l'opération se fait avec le soutien des gouvernements des deux pays. Il faut dire que Bombardier, en très grande difficulté financière, n'avait pas vraiment le choix, obligé de multiplier les cessions d'actifs pour éviter la faillite. Le paradoxe est que l'acheteur est plus petit sur le papier que le vendeur, 36 000 salariés au niveau mondial contre plus de 40 000. Mais Alstom, le constructeur historique du TGV, se porte mieux, recentré sur les activités ferroviaires depuis la vente de sa branche énergie à General Electric et affiche même un carnet de commandes record. Reste encore, et c'est loin d'être une simple formalité, à obtenir le feu vert de la Commission européenne qui avait rejeté l'an dernier un projet de fusion entre Alstom et l'allemand Siemens pour cause, selon elle, d'atteinte à la concurrence.
Et nous reviendrons sur Alstom et Bombardier dans le journal de 7 heures. Le couple Pavlensky-Tadeo doit être présenté à un juge d'instruction aujourd'hui. L'artiste russe et sa compagne, en garde à vue jusqu'à hier après-midi, étaient entendus pour atteinte à l'intimité de la vie privée dans l'affaire des vidéos intimes diffusées sur Internet et qui ont poussé Benjamin Griveaux à renoncer à briguer la mairie de Paris. Pour lutter contre le communautarisme, ou ce qu'il appelle le séparatisme. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à Mulhouse, dans le Haut-Rhin. Le Qatar finance en partie la mosquée Anour, qui sera, une fois achevée, l'une des plus grandes de France. Il veut renforcer le contrôle du financement des lieux de culte. Arnaud Lacheret, ancien chef de cabinet du maire Les Républicains de Rieux-la-Pape, dans le Rhône, était l'invité du journal de 22h hier. C'est une commune de 31 000 habitants, dont 18 000 vivent dans des logements sociaux. Pour lui, une municipalité doit savoir faire des arrangements transitoires pour faire progresser la laïcité.
Pendant très nombreuses années, donc pendant quasiment 20 ans, les maires précédents mettaient gratuitement à disposition un gymnase pour les deux cérémonies de l'Aïd, donc les prières du matin, l'Aïd el-Fitr et l'Aïd el-Kébir. L'Aïd el-Fitr, c'est celui qui est la fin du Ramadan, et l'Aïd el-Kébir, c'est quelques semaines après, où il y avait quasiment 2000 personnes qui s'entassaient dans ce gymnase de 500 places, autrement dit, c'était complètement illégal, de manière gratuite. Autrement dit, si on regarde les dispositions de la loi de 1905, on n'était pas du tout dans les clous. Quand on est arrivé, c'était en mars, en avril, donc on était assez proche de cette période-là, on aurait tout à fait pu dire non, on vous l'interdit. Qu'est-ce qui se serait passé? Ça aurait sans doute pas été très très agréable, on aurait sans doute plus des prières de rue, ça aurait lourdement affecté le crédit politique de début de mandat, et ben on n'a pas laissé faire, mais disons qu'on a autorisé à titre exceptionnel. On l'a fait pendant plusieurs années en expliquant bien à la communauté qu'il allait falloir trouver d'autres solutions. Et au bout de 3 ans, on a fini par obtenir ce genre de choses. Mais si on avait respecté la loi à la lettre, jamais de la vie, ce gymnase n'aurait pu être prêté. Et au final, cette décision a été parfaitement acceptée. Au bout de 3 ans, ils ont organisé ça, la communauté musulmane a organisé ça, notamment sur le parking de la grande mosquée avec des chapiteaux et des tentes, et les choses se sont très bien passées. Ça fait partie de ces légères concessions qu'on a pu... Oui, on peut appeler ça concession. Disons que ce sont des arrangements transitoires. Je préfère dire ça comme ça.
Arnaud Lacheret, propos recueillis par Stanislas Vazak. L'ONU a beau répéter qu'il faut un cessez-le-feu dans la région d'Idlib, les assauts continuent dans le nord-ouest de la Syrie. Ils ont déjà fait 900 000 déplacés depuis décembre. Hier, le président syrien s'est engagé à poursuivre l'offensive. Non loin d'Idlib, les troupes de Bachar el-Assad ont aussi fini de reprendre la quasi-totalité de la métropole d'Alep. Le chef de l'État a même annoncé la réouverture de l'aéroport de la deuxième ville du pays, avec des vols commerciaux programmés dès cette semaine et pour la première fois depuis 2012, Aurélien Colli.
Premier vol entre Damas et Alep mercredi, suivi dans les prochains jours de vols vers Le Caire en Égypte. L'annonce vient du ministère syrien des Transports, quelques heures à peine après la reconquête par le régime d'une ceinture de localités qui lui échappait encore dans la grande périphérie d'Alep. Un succès majeur obtenu grâce à l'appui sur le terrain des milices chiites déployées par l'Iran et qui s'ajoute à la reconquête la semaine dernière dans la province d'Idlib et avec cette fois le soutien de l'allié russe de 2 axes routiers clés reliant Alep à l'attaque qui est le fief du régime, et à Damas, la capitale. L'offensive va continuer, a promis hier soir Bachar el-Assad, indépendamment des discours criards vides qui viennent du nord, a-t-il lancé. Le nord, c'est la Turquie qui a fermé sa frontière pour empêcher un nouvel afflux de réfugiés, mais qui a aussi envoyé 7000 hommes et 2000 véhicules en renfort dans la partie nord d'Idlib, où quelques 3 millions de civils s'entassent désormais, avec rebelles et djihadistes, dans des conditions désastreuses. Leur sort dépend de la détermination d'Ankara face à Moscou, qui soutient ou tient le régime syrien.
Le directeur de l'un des hôpitaux de Wuhan est mort aujourd'hui. C'est l'épicentre de l'épidémie de coronavirus qui a tué près de 1900 personnes en Chine. Les conséquences sont aussi économiques. Parmi les nombreuses entreprises perturbées, citons Apple. Le géant américain des technologies n'atteindra pas ses objectifs de vente ce trimestre. Que vont-ils décider? Les jurés du procès d'Harvey Weinstein se retirent aujourd'hui pour entamer les délibérations. L'ancien roi d'Hollywood est notamment accusé de viol et de harcèlement sexuel et il risque la prison à perpétuité. Malgré des témoignages accablants, malgré les accusations de près d'une centaine de femmes et le mouvement MeToo en toile de fond, impossible de prédire la sentence. À New York, Loïc Loury.
3 semaines d'audience, 30 de témoins convoqués et au bout du compte, une question à trancher. Jessica Mann et Mimi Alei ont-elles été les victimes d'un prédateur sexuel, d'un manipulateur tout-puissant ou sont-elles des opportunistes consentantes? Ces deux portraits sont ceux qui ont été dressés lors du procès, d'un côté par la procureure, de l'autre par l'avocate d'Harvey Weinstein. Pour appuyer la première, des récits, parfois confus mais bouleversants, de 6 femmes, elles n'ont aucune raison de mentir, assure Joanie Luzzi Orbon qui les a représentées. En face, la défense pourtant a remis leurs paroles en cause. La vérité laisse des traces, a affirmé Donna Rotuno. En l'occurrence, des relations consenties, preuve à l'appui, qui se sont parfois étalées sur des années entre certaines des victimes et Harvey Weinstein. Au milieu, 7 hommes et 5 femmes, 12 jurés, sont donc désormais appelés à choisir. Et ce processus complexe pourrait durer longtemps. En toile de fond, en effet, impossible ou presque de faire abstraction du contexte. Le mouvement MeToo, les accusations d'une centaine de femmes parfois très célèbres contre le producteur déchu. C'est pourtant tout l'enjeu des délibérations qui s'ouvrent aujourd'hui. Faute d'unanimité, elles aboutiraient à une annulation pure et simple du procès.
En France, le temps aujourd'hui sera plutôt ensoleillé dans la soirée. La pluie arrivera par le nord du pays. Il fait ce matin 7 degrés à Lille, Paris et Strasbourg, 9 à Bordeaux et Brest, 11 à Marseille et 14 à Nice. 6h40, vous écoutez France Culture. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Margot Delpierre.
Et aujourd'hui, dans le journal des idées, vous évoquez quelques conséquences inattendues du Brexit.
Eh oui, le Brexit, par exemple, pourrait bien accélérer la réunification de l'Irlande. Le succès du Sinn Féin aux élections législatives en République d'Irlande, un parti qui milite depuis sa fondation pour l'indépendance de la totalité de l'île, en est un signe fort, selon Philippe Bernard dans Le Monde. Seul parti irlandais actif des deux côtés de la frontière, le Sinn Féin co-gère déjà l'exécutif régional du Nord. Au sud, sa charismatique présidente, Marie-Lou MacDonald, est désormais en position de participer à un gouvernement et de pousser l'un des premiers points de son programme, la réunification. À Londres, personne n'a vu venir à quel point le Brexit allait être une affaire irlandaise. Pourtant, la question de la frontière entre les deux Irlandes a vite été au cœur des négociations et la perspective d'une réunification a reçu un coup de pouce involontaire lorsque Boris Johnson, pour écarter le maintien du Royaume-Uni dans l'Union douanière européenne, a accepté que l'Irlande du Nord seule y demeure. Un choix qui entraîne la mise en œuvre de contrôles systématiques des échanges entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord et qui érige de fait l'île d'Irlande en une entité économique cohérente, rendant crédible une éventuelle unification politique. Rappelons que lors du référendum, 56% des Nord-Irlandais ont voté en faveur du maintien dans l'UE et que la démographie pourrait accentuer la tendance. Le prochain recensement de la population prévu en 2021 va sans doute confirmer le recul des protestants attachés au lien avec l'Angleterre au profit des catholiques, traditionnels soutiens du rattachement à la République. L'autre conséquence majeure concerne la défaite du Parti travailliste aux élections générales de décembre dernier au Royaume-Uni. Parmi les raisons avancées par Chris Bickerton dans Le Monde diplomatique, outre un décalage croissant entre l'électorat populaire et celui des grandes villes, il y aurait la division entre partisans et adversaires du Brexit qui le recoupe. Le politiste à Cambridge évoque les flottements dans le programme du parti entre soutien au Brexit en 2017 et appel à un second référendum en 2019. Sur le continent européen, le Brexit a imposé aux Pays-Bas, alliés traditionnels du Royaume-Uni, de repenser leur rôle, estime Florentin Collomb dans Le Figaro. Stratégiquement positionné au centre du trépied Paris-Londres-Berlin, tant sur le plan géographique qu'idéologique, il pouvait s'aligner sur Londres, caché derrière les vétos bien pratiques de leurs partenaires, partisans comme lui du libéralisme et de la rigueur budgétaire. Avec la Suède, le Danemark ou la Finlande, les Pays-Bas se sont retrouvés orphelins du Brexit, relégués en périphérie, trop grands pour se laisser marcher sur les pieds, trop petits pour peser vraiment. Celui qu'on surnomme le nouveau Thatcher, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, s'impose désormais comme l'homme qui dit non au sein des 27 depuis le départ des Britanniques. Il a pris la tête d'une ligue hanséatique représentante d'une orthodoxie économique partagée par d'autres petits États, Irlande, Suède, Danemark, Finlande ou Pays-Baltes. Pour les mauvaises langues, c'est Rutte et les sept nains. Avec l'Autriche, ces pays revendiquent une limitation du budget européen à 1% maximum du revenu national brut contre une proposition de compromis du Conseil de 1,07 au risque de mettre en péril les ambitions affichées par Ursula von der Leyen dans son pacte vert, l'investissement dans le numérique ou encore la défense européenne. Car le Brexit pourrait paradoxalement faire avancer le projet d'une défense européenne indépendante de l'OTAN, comme le soulignait Charles Bremner dans le Times, relayé par Courrier International. Le Royaume-Uni s'efforce de renforcer sa coopération militaire avec la France de manière à rester impliqué dans les questions européennes de sécurité à un moment où de nombreux doutes planent sur l'engagement américain envers l'Alliance Atlantique. Les deux seuls nations européennes à posséder l'arme nucléaire et à siéger parmi les membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, partagent déjà leur porte-avions et développent ensemble un projet d'avions de chasse sans pilote et de missiles nucléaires. Leurs forces armées, navales et aériennes ont l'habitude de travailler ensemble. C'est pourquoi, selon Michael Thumann dans Die Zeit, l'Allemagne doit cesser de tergiverser sur la défense européenne. À propos de la conférence sur la sécurité à Munich, il estime qu'il en va de la capacité de l'Europe à se défendre elle-même. Alors que les États-Unis jouent de moins en moins leur rôle protecteur, que les traités de désarmement tombent dans l'oubli, que la Russie installe de nouveaux missiles nucléaires capables d'atteindre Berlin, Rome et Paris, l'Europe n'a toujours pas de plan d'action. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour
Julie. Bonjour Jacques.
Bonjour Julie Gacon. Aujourd'hui, une mise en perspective historique de l'extrême droite en Allemagne.
Oui, en l'occurrence de l'AfD, Alternative für Deutschland, que les formations de droite traditionnelles non seulement prennent désormais au sérieux, mais c'est le cas depuis quelques années, mais dont elles sollicitent les voix pour s'assurer une élection. Pour l'instant, ça ne s'est passé qu'une fois, il y a 2 semaines dans le Land de Thuringe, mais c'est un tabou qui tombe. L'AfD qui progresse aujourd'hui aussi bien en Allemagne de l'Ouest qu'en Allemagne de l'Est, même si c'est bien à l'Est qu'elle a fait ses meilleurs résultats lors des élections régionales de l'automne dernier, plus de 23% dans le Brandenbourg, 27,5% en Saxe. Le site DiploWeb a mis en ligne la semaine dernière un article important pour comprendre l'évolution et l'histoire de l'extrême droite en Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vous qui avez signé cet article, Jérôme Vaillant, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On est en ligne avec vous depuis la ville de Cologne, dans l'ouest de l'Allemagne. Vous êtes professeur émérite en civilisation allemande de l'université de Lille et directeur de la revue Allemagne d'aujourd'hui. Alors avant d'étudier les 7 dernières années qui ont vu s'élargir petit à petit la base électorale de l'AfD jusqu'à ses succès électoraux récents, il faut, Jérôme Vaillant, refaire un bref historique de ce qu'est l'extrême droite en Allemagne depuis la chute du Troisième Reich. Que représentait le Parti Socialiste du Reich? C'était son nom. Que représentait-il et qui quand il a été créé en octobre 49?
En octobre 49, il aurait été étonnant qu'il n'y ait pas, même quelques années après la fin du Troisième Reich, des nostalgiques de ce monde barbare et meurtrier. Quand un régime s'effondre, il a toujours ses nostalgiques qui continuent d'y croire. Et c'est ce qui s'est produit en Allemagne après la fin du Troisième Reich. Et le Socialistische Reichspartei, SRP, était véritablement, tout simplement, une façon de chercher à poursuivre l'action du Parti National Socialiste de Hitler. Il a été interdit à la demande du gouvernement fédéral dès l'année 1951. Et peut-être ce qui importe dans l'affaire, pour comprendre aussi par la suite ce qui se passe en Thuringe, sur le plan, je dirais, politique des rapports entre les deux extrêmes, le SRP a été interdit dès 1951 et a suivi après l'interdiction du Parti communiste, fidèle à cette idée finalement de l'idéologie que les extrêmes sont l'un comme l'autre, qu'ils soient extrême de droite ou extrême de gauche, également répréhensible. Et l'interdiction donc de l'extrémisme de droite est venue s'ajouter l'interdiction de l'extrémisme de gauche, le Parti communiste d'Allemagne étant considéré comme un parti extrémiste en RFA, et bien évidemment cela est aussi conditionné par la guerre froide qui joue à l'époque. Ensuite, on peut estimer que il y a toujours eu une partie de l'opinion allemande qui est restée proche de l'extrême droite depuis toujours. Les études partent de l'idée qu'il y a entre 10 et 20% de l'opinion publique allemande, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest aujourd'hui, qui reste favorable, potentiellement favorable à l'extrême droite. Cela conduit dans les années 60 à une sorte de ressurgissement de cette extrême droite sous la forme du parti NPD.
National-démocrate.
Et ce Parti national-démocrate, qui peut être considéré comme un parti effectivement néo-nazi. Et dans les années 60, la crainte était grande que l'on voit le NPD, après une progression dans quelques länders de l'Ouest, arriver également au Bundestag, et puis ça ne s'est pas fait.
À tel point que le gouvernement fédéral demande son interdiction au tribunal fédéral constitutionnel, qui la refuse parce que le tribunal estime que de toute façon il ne représente plus grand-chose et donc il ne représente pas une menace non plus. Mais il faudra quelques années pour arriver à ça.
Mais en 69, ce qu'il est important peut-être de rappeler dans le contexte, c'est que la non-entrée du NPD au Bundestag fait aussi que peut se constituer la petite coalition social-démocrate libérale de Willy Brandt, et on a cette situation assez paradoxale qu'après la crainte de voir l'extrême droite se reconstituer en Allemagne, on assiste à une ouverture vers plus de démocratie et plus d'ouverture vers l'Est sous l'égide du chancelier Willy Brandt. C'est pour dire que l'extrême droite a été contenue, et peut-être qu'on a eu tendance d'ailleurs de ce fait à oublier qu'elle continuait d'exister de façon sous-jacente, même si elle n'avait plus véritablement d'existence parlementaire, au point qu'on en est arrivé à ce que vous venez d'évoquer, le fait que le tribunal constitutionnel fédéral estime que interdire le NPD aujourd'hui serait lui donner trop d'importance. Mais
il faut avancer un petit peu dans la chronologie. On arrive en 83 avec un autre parti qui connaîtra le même sort, c'est-à-dire émergence puis déclin. C'est le parti qui se donne le nom de Republikaner, les Républicains. Il est créé à Munich en pleine guerre froide. Mais c'est après l'unification qu'il obtiendra ses meilleurs résultats, avant de disparaître à son tour. Mais l'unification, c'est une date charnière dans tous les domaines en Allemagne, dont celui de l'extrême droite.
Oui, l'extrême droite reparaît d'abord en Allemagne de l'Est, parce que je crois que là, il y a quand même un problème particulier à noter. J'ai toujours expliqué l'émergence ou la réémergence de partis d'extrême droite en Allemagne de l'Est par ce qu'on appelle l'anti-antifa. L'anti-fascisme officiel de la RDA a provoqué des réactions de rejet, et on peut dire que l'anticommunisme de certains groupes s'est transformé en tendance fascisante. Et même s'il n'y a pas eu que de l'extrême droite à l'Est, mais également à l'Ouest, c'est quand même là, comme les chiffres que vous avez indiqués le rappellent, que elle a aujourd'hui ses plus forts résultats. Je ne vais pas les reprendre. Et c'est lié, je pense aussi, en grande partie, aux conditions même de la situation propre à l'Allemagne de l'Est, à l'absence d'un véritable dialogue démocratique comme il a eu lieu en Allemagne de l'Ouest, et puis à des besoins qui s'expriment de façon assez semblable, finalement, ce que l'on a connu en France sous les Gilets jaunes, au point que dans un autre article, j'ai appelé l'AFD Gilet bleu, puisque la couleur de l'AFD est le bleu, mais on retrouve les mêmes soucis de territorialité, de ruralité, de sentiment de délaissement, d'être finalement des citoyens déclassés. Cela joue sans aucun doute un rôle dans l'Allemagne de l'Est d'aujourd'hui.
Et qu'est-ce qu'il reste, parce que vous parliez du Republikaner comme un parti aussi anti-antifa. L'AFD, quand elle a été fondée à Berlin en 2013, elle s'entend, l'écrivez-vous, comme un parti libéral conservateur qui défend l'économie sociale de marché, mais qui est hostile à l'euro. Ce qui montre bien qu'on ne peut pas, Jérôme Vaillant, résumer l'AFD à un parti néo-nazi, même si encore ce week-end à Dresde, des cadres et des militants de l'AFD sont venus manifester contre un discours de repentance du gouvernement allemand lors de la commémoration des bombardements de la capitale de la Saxe par les Alliés.
Oui, alors, c'est vrai que la situation est très complexe, et j'ai intitulé l'article que vous évoquiez tout à l'heure pour l'AFD « Entre recherche de respectabilité et radicalisation », ce qui en fait montre qu'elle poursuit l'AFD actuellement un double objectif sans doute irréaliste. On ne peut pas rechercher dans l'Allemagne d'aujourd'hui de la respectabilité et en même temps se radicaliser de plus en plus à l'extrême. Et ce qui rend le succès de l'AFD en Thuringe particulièrement intéressant, c'est que son leader, Björn Höcke, est quelqu'un que la justice autorise à appeler ouvertement fasciste. C'est un représentant de l'aile raciste nationaliste de l'AFD, et ce n'est pas lui qui va donner à l'AFD la respectabilité que certains de ses fonctionnaires à Berlin voudraient lui donner pour apparaître comme un parti finalement de gouvernement tout à fait acceptable pour les autres partis. Parce que je crois que l'affaire de la Thuringe avec l'élection d'un ministre-président libéral avec les voix de l'AFD, c'est surtout une façon pour l'AFD de montrer à la droite conservatrice allemande, sans nous désormais vous ne pourrez plus gouverner en Allemagne, d'abord dans l'Elbe Nord et ensuite au niveau fédéral. Ceci dit, les réactions dans la rue et les réactions des partis même montrent que l'Allemagne sait réagir entre-temps. Après avoir été sonné par cette affaire de Thuringe, les Allemands réagissent et montrent à l'AFD jusque-là et pas plus loin. Et pas plus tard qu'hier soir, le Bodo Ramelow, le ministre-président sortant et sorti de Thuringe, qui représente le parti Die Linke, ce qu'on ne doit pas perdre de vue dans l'affaire de Thuringe, a négocié avec les chrétiens-démocrates une solution intermédiaire, à savoir que l'ancienne ministre-présidente chrétienne-démocrate de Thuringe assurera l'intérim pendant quelques temps à la tête d'un gouvernement technique ayant des représentants de la gauche, Die Linke, du SPD et des Verts, afin de préparer des élections anticipées que risque d'ailleurs de gagner Die Linke, la gauche.
Merci beaucoup Jérôme Vaillant. On arrive à la fin de cet entretien, mais on a bien compris aussi à travers vos propos comment Alternative für Deutschland, l'AFD, est en train aussi de transformer la vie politique allemande. Il faut, pour aller plus loin, lire l'article que vous publiez donc dans DiploWeb. Nous le mettons en lien sur notre site internet. Je rappelle Jérôme Vaillant, vous êtes professeur émérite en civilisation allemande de l'Université de Lille et directeur de la revue Allemagne d'aujourd'hui. Bonne journée à vous.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture et la Comédie Française présentent Le Chat, un roman de Georges Simenon, adapté pour un spectacle radiophonique au studio 104 de la Maison de la Radio.
Un drame à huis clos sur un couple qui ne se parle plus et se fait souffrir mutuellement. Enfermés dans le silence, ils ne communiquent plus que par des bouts de papier. Un roman magistral par le créateur du Commissaire Maigret. Une réalisation de Baptiste Guiton avec la troupe de la Comédie Française.
Mardi 25 février à 20h au studio 104 de la Maison de la Radio. Réservation maisondelaradio.fr ou 01 56 40 15 16.
Sur France Culture, prenons la vie avec philosophie, Adèle Vendrette.
Qui a dit que la philosophie n'était pas accessible à tous ?
Ne vous cachez pas derrière l'écran, monsieur Simpson !
Non, je suis bien là.
West Side Story, Chantons sous la pluie, Mary Poppins, Podan, la comédie musicale nous permet-elle de retrouver la joie de vivre ?
C'est un film parlant.
Les chemins de la philosophie, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, 6h57. Bonjour Hervé Gardette.
Bonjour Julie Gacon.
Les matins de France Culture sont à Bruxelles ce matin et votre humeur, Hervé, ce matin, on va enfin pouvoir parler anglais en Europe.
Yes, absolutely, Julie. Welcome in Brussels, the heart of Europe. It's nice to hear you from the other side of the town of Quévrin. Oui, je parle anglais. Enfin, en tout cas, j'essaie. Et oui, au mieux, c'est anachronique. Au pire, c'est une provocation que d'utiliser encore cette langue à proximité des institutions de l'Union européenne, lesquelles ne se sont pas encore remises du départ fracassant du Royaume-Uni. Le fait est que, sans les Anglais, et sans les Gallois et les Écossais, la langue anglaise devient ultra minoritaire parmi les 27. Ils ne sont plus que deux pays à l'avoir pour dialecte officiel, l'Irlande et Malte, eu égard à son passé d'ancienne colonie de Sa Majesté. Ce qui, quand vous ajoutez la population de l'une avec celle de l'autre, ne représente que 5,5 millions d'habitants, soit à peine plus de 1% de la démographie globale de l'Union. Alors avec le Brexit, c'est l'occasion rêvée pour les Européens de s'affranchir de la tutelle de l'anglais, qui, pour n'être qu'une des langues officielles de l'UE, en était de loin la plus utilisée. Mais le rêve pourrait bien virer, si ce n'est au cauchemar, du moins à la cacophonie, laquelle va prendre le relais. Le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le polonais. En laissant la place vacante, les Britanniques ont fait un cadeau empoisonné à leurs anciens collègues, leur départ pouvant conduire à rebabéliser les travées du Parlement et de la Commission, chaque groupe national revendiquant de ne plus parler que dans sa langue. Reste alors une solution pour écarter le spectre de la désunion, que tout le monde ne parle plus qu'anglais. Après tout, maintenant que le Royaume-Uni n'est plus là, la langue anglaise perd sa dimension impérialiste pour n'être plus qu'un outil technique bien commode pour qui veut communiquer tout en se faisant comprendre. adoptable par tous, puisque désormais sans véritable port d'attache, les Irlandais ont le gaélique, Malte a le maltais, l'anglais peut enfin s'imposer comme la langue officielle de l'Union européenne sans vexer personne. De là à imaginer que c'était le véritable objectif du Brexit, ce serait un sacré coup de Trafalgar, isn't it ?